signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à tous. Un an après la mort de Samuel Paty, on apprend que le buste du professeur sculpté par Nassira Kainou et qui devait être inauguré dans son collège ne le sera finalement pas, en tout cas pas tout de suite, en raison de protestations des parents d'élèves auxquels le ministère aurait cédé. On apprend aussi que le site EduSchool, qui aide à la mise en œuvre des programmes, recommande, je cite, que les commémorations qui ont lieu en ce moment n'aient pas vocation à un retour sur ce qui s'est passé il y a un an, qu'elles ne soient pas non plus une évocation de Samuel Paty ou de sa mémoire. En dépit donc des déclarations officielles du ministre, où en est-on dans l'enseignement un an après ce meurtre, en particulier dans sa hiérarchie? C'est ce que nous allons essayer de discuter aujourd'hui avec notamment Béatrice Benabès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'espagnol au lycée Chaptal, vous êtes chargée de cours à Sciences Po. Vous avez longtemps enseigné dans un lycée d'Épinay-sur-Seine, 11 ans je crois. Et c'est ce qui vous a sensibilisé au principe de la laïcité, on va en parler dans une seconde. Yannis Roder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire, vous enseignez depuis 1999 dans un collège ZEB de Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès, directeur de formation au Mémorial de la Shoah, membre du Conseil des Sages de la Laïcité, président de l'Observatoire du Conspirationnisme, plus récemment membre de la Commission Bonheur, et vous publiez Prof, Mission Impossible, point d'interrogation, je crois que j'ai tout cité, ou presque.
Hein. Oui, presque, oui.
qui est un commentaire très intéressant d'une enquête publiée par IFO et la Fondation Jean Jaurès sur le milieu des professeurs, enquête qui a été réalisée en décembre 2020. Et enfin, David Nota, bonjour. Vous êtes écrivain, vous essayez entre l'écriture de romans, des romans qui ont été salués notamment par Kundera, par Godard, par Solers, entre autres, et des enquêtes réalistes qui sont en partie du journalisme, en partie de la littérature. Vous avez publié, il y a longtemps, J'ai épousé un casque bleu, qui était sur la guerre de Bosnie, Bambi Park, qui était une enquête littéraire sur le bombardement de Belgrade. Et là, c'est un livre de ce type que vous publiez en ce moment. J'ai exécuté un chien de l'enfer, qui est en partie une enquête et en partie une réflexion sur l'assassinat de Samuel Paty il y a un an. Alors, Béatrice Benabès, d'abord, je commence par vous. Où en est-on d'abord des commémorations? Comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que vous avez des...
Alors, je n'ai pas vraiment de retour sur le terrain. Avant, j'aimerais quand même me présenter au titre de quoi j'interviens.
Oui, oui.
Je suis donc membre du collectif Vigilance Collège-Lycée. C'est un réseau d'enseignants qui s'est constitué quelques semaines après l'assassinat de Samuel Paty, au mois de novembre 2020 donc, et qui a une vocation à être solidaire, solidaire des enseignants qui traversent, qui sont isolés et qui vivent donc des attaques telles que celles que Samuel Paty a subies. Voilà, l'idée étant que plus jamais un enseignant se retrouve en proie à la grande solitude qu'a traversé Samuel Paty.
Alors, on va y revenir sur cette solitude. Alors, vous avez beaucoup de remontées, vous avez des profs qui vous appellent, qui vous expliquent.
Alors, nous avons
situation.
quelques interventions, pas énormément, non, nous comptons un nombre de 71 membres, c'est encore trop peu, on espère que d'autres enseignants vont nous joindre, mais bon, ce chiffre dit aussi beaucoup de l'espèce de l'anesthésie dans laquelle se trouve notre société face à ces problèmes-là, et ça on pourra peut-être en parler aussi après. Nous avons aussi une vocation, nous avons vocation à produire des contenus pédagogiques, et nous établissons aussi une veille, nous tenons à être présent sur le plan médiatique, car nous sommes bien conscients que, dans la bataille d'opinion, car la laïcité, c'est avant tout une bataille d'opinion.
Yannis Roder, dans le livre que vous publiez, Prof, Mission Impossible, parmi les chiffres qui sont donnés par l'enquête, on rappelle qu'il y a 19% des professeurs disent avoir constaté au moins une forme de contestation dans leur cours, que le pourcentage monte à 34% dans les zones d'éducation prioritaire.
Ça, au moment de l'hommage
à Samuel
Paty, le 2 novembre 2020.
Il y a un an.
Exactement, il y a un an.
Et vous vous commentez en disant que les incidents ne sont pas tous signalés ni remontés, loin de là, que 84% des enseignants ayant été témoins ou ayant eu connaissance d'une contestation d'enseignement l'ont signalé, que 16% n'ont rien dit. Et bon, vous faites l'analyse de ces divers chiffres. Un professeur sur deux, c'est-à-dire 49% exactement, dit s'être déjà auto-censuré dans le secondaire. Cette auto-censure est très marquée chez les enseignants de moins de 30 ans en particulier. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que ça a progressé? Enfin, on vient de le voir avec, on va y revenir d'ailleurs, avec Eduscol. Il semble qu'il y ait beaucoup de résistance aux prises de parole.
Alors, je crois qu'effectivement, il doit y avoir de la résistance, comme vous dites, Marc Weissmann, mais je pense qu'il y a aussi une certaine prudence. Oui. Une certaine prudence qui s'adosse finalement à une peur. Vous savez, le but du terroriste, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est de faire peur. Et en l'occurrence, on peut avoir l'impression que ça peut fonctionner aujourd'hui. Après, sur le terrain, il est encore, je pense, trop tôt pour savoir si ce qui s'est passé il y a un an a fait changer les choses. Mmh. Ce que j'ai vu, moi, en tout cas, c'est qu'il y a eu, me semble-t-il, une prise de conscience assez générale dans le monde enseignant de la gravité, d'abord de l'acte, bien sûr, et ça, c'est quand même rassurant, mais surtout de la situation. Et il y avait beaucoup de déni hein, depuis 20 ans sur les questions liées à l'islamisme, liées à la montée de l'antisémitisme, de l'homophobie, du sexisme, qui ne sont que des témoignages, que des signes de ce qui se passe en profondeur. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens ont ouvert les yeux. Mmh. Malheureusement, il a fallu cela, mais que beaucoup de gens, et notamment en salle des professeurs, ont ouvert les yeux et sont conscients de cette réalité. Maintenant, il y a un autre problème qui me semble extrêmement important, mais j'imagine qu'on sera amené à en parler, c'est le problème de l'outillage intellectuel et pédagogique des enseignants pour faire face à ce qu'on a appelé dans le livre que vous venez de citer des contestations d'enseignement et aussi à la question de l'autocensure. Parce que si on s'autocensure, alors vous avez dit 49% se sont déjà autocensurés. On peut tout à fait dire, oui, mais c'est arrivé qu'une fois. Mais si on regarde bien le sondage, entre ceux qui se censurent régulièrement et de temps en temps, c'est-à-dire plusieurs fois dans l'année, disons les choses clairement, on est à 25%. Mmh. Ça veut bien dire que là, il y a un problème. On a des enseignants qui se retrouvent en situation d'insécurité professionnelle et qui ont du mal à faire cours comme ils souhaiteraient le faire. Donc il y a un problème de formation qui est très clair. Et le second problème, c'est ce que vous avez souligné également, Marc, c'est le fait que certains doivent se sentir trop isolés pour oser affronter certains élèves. S'ils pouvaient s'adosser davantage à l'institution et s'ils se sentaient vraiment soutenus par l'institution, peut-être qu'on aurait moins d'autocensure.
Oui, alors vous dites dans le livre que les professeurs privilégient ce qu'on appelle les pères, c'est-à-dire le personnel de direction de leur établissement, mais très peu se tournent vers le référent du rectorat quand ils ont un problème.
Oui, encore
5% seulement.
5% vers le rectorat, bon, ça peut se comprendre, il y a la distance hein, qui est physique et,
oui, bien sûr.
Et institutionnelle. Mais c'est 56% qui se tournent vers les corps de direction. C'est-à-dire 56%, c'est un peu plus de la moitié. Ça veut dire que 44% ne le font pas, n'ont pas ce réflexe. Et beaucoup se tournent vers leur père, PIRS, qui eux ne vont pas résoudre le problème et ne vont pas amener à une convocation de l'élève ou de la famille. Ils vont simplement donner des conseils et porter appui, ce qui est déjà important, à leurs collègues. Mmh. Il y a là donc peut-être, quelque part, un dysfonctionnement.
Oui. Vous dites aussi que seuls 54% des enseignants estiment avoir reçu un soutien total quand ils ont eu des problèmes de la hiérarchie, taux qui monte à 86% chez ceux qui affirment avoir obtenu un soutien partiel, c'est-à-dire incomplet, et que le taux descend est bien plus bas quand il s'agit du rectorat, puisqu'ils ne sont que 21% à affirmer avoir trouvé un soutien total de ce côté-là. Donc il y a effectivement un vrai problème de hiérarchie qui était très perceptible dans les manifestations qui ont suivi l'assassinat de Samuel Paty. Moi, j'étais à celle de la place de la République pour voir ce qui se passait. Et la tension était vraiment très forte. Je ne sais pas si elle est retombée depuis. Béatrice Malabès, vous sentez au quotidien cette tension qui était perceptible, enfin l'émotion qui était perceptible, c'est retombé.
Alors, cette émotion, elle a effectivement été très intense au moment de l'événement, mm-hmm. bien évidemment. quoique elle ne l'a pas été de façon générale, et en tout cas pas unanime, même chez les professeurs. Mmh. Certains professeurs sont effectivement, comme le dit Yanis, dans le total déni, voire trouvent que Samuel Paty a exagéré. Mmh. On a ça aussi, on le rencontre pas de façon majoritaire, mais ce n'est pas non plus portion congrue. Voilà, donc on pouvait s'attendre, en tout cas il y a eu une grande émotion de la part des gens qui étaient déjà concernés, là on a passé un cap, et on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait justement, à ce que cette émotion, cette communion se traduise par une communion dans la sphère politique par exemple. En revanche, il n'y a pas eu de sursaut, le sursaut laïque majeur auquel on pouvait s'attendre, auquel on était en droit de s'attendre, il n'a pas eu lieu. Et on a eu, je trouve, enfin, une société assez décevante, une classe politique aussi assez décevante, avec une certaine gauche qui n'a pas, qui ne considère plus la laïcité comme sa mission, comme une de ses missions premières, alors qu'elle était quand même son blason identitaire, le ciment de la gauche, et une certaine droite, on le sait, qui surfe, qui exploite l'islamisme pour étayer ses thèses racistes. Alors, effectivement, il y a eu néanmoins des choses qui ont été mises en place de la part de l'exécutif, et ça, nous, à VCL, on le salue. Après, il faudra voir quelle tournure cela prend. C'est la formation. Et comme disait Yanis, nous sommes très, très, très... nous attendons, il y a une nécessité criante de formation chez les enseignants, à l'endroit des jeunes enseignants qui ne,
oui, parce qu'il y a un problème spécifique,
qui n'adhèrent pas vraiment. Mais... il y a vraiment un fossé générationnel avec les jeunes enseignants. Bon, les chiffres, on les verra peut-être, ou voilà, mais ils sont réels. Et puis aussi, à l'endroit des enseignants qui ne sont ni professeurs d'histoire-géographie, ni professeurs de philosophie, ni professeurs de français, et qui peuvent rencontrer des problèmes sur ce sujet de la laïcité, qui peuvent voir leur savoir remis en cause. Je pense aux professeurs de sciences en ce qui concerne le darwanisme ou les cours de reproduction sexuée. Je pense aussi aux professeurs d'éducation physique qui voient fleurir les certificats de complaisance afin que les jeunes filles ne se rendent pas à la piscine. Voilà, ce genre de choses. Donc on est très, très, très... on attend beaucoup de cette formation.
Oui, il y a un problème particulier, on va finir là-dessus, il y a un problème particulier avec les jeunes enseignants, ceux qui ont moins de 30 ans et qui semblent ne pas saisir l'idée de laïcité. Les chiffres sont étonnants. Hein. Les professeurs de moins de 40 ans, publics et privés confondus, se disent plus religieux à 39% et moins athées à 28% que leurs aînés. Et même la question de la loi de 1905, les moins de 40 ans ne sont plus que 71% à la soutenir contre 96% pour ceux qui sont au-delà. Et 4% pensent même, de moins de 40 ans pensent même qu'elle devrait être supprimée. Donc il y a un vrai gap.
Oui, il y a un gap à la fois sur le fond, bien sûr, et de fait aussi sur la forme, on va dire, parce que moi j'étais vendredi matin dans mon établissement scolaire et j'avais des jeunes collègues qui sont de très bons profs, hein, mais chez qui je lisais et qui m'ont dit d'ailleurs leur angoisse au moment de l'hommage. Ils me disaient je ne sais pas comment je dois réagir à ce que sont potentiellement en état de dire les élèves, je ne sais pas, je vraiment, j'ai senti chez certains une véritable angoisse. Et après, sur la question que vous abordez, Marc Weissmann, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la laïcité pour une partie, hein, une partie qui reste minoritaire, heureusement, des professeurs de moins de 40 ans. On a l'impression, à la lecture du sondage, que c'est une représentation de tolérance. On va se tolérer les uns les autres, on va coexister. Et en fait, tout ce qui fait la laïcité à la française, et notamment par l'école, c'est-à-dire tout ce qui fait l'émancipation, disparaît. Voilà, tout ce que porte l'école de la République disparaît. On est juste là pour coexister, être les uns avec les autres, et on va se tolérer, et on va s'écouter, et on va et tout ce qui permet l'émancipation de la liberté, eh bien, n'existe plus.
Jesus died for someone's sins, but not mine. just rules and regulations to me. Me. Jesus died for someone's sins, but not mine. Mailman out, part of thieves, wild card up my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me. People say beware.
Voilà, Patti Smith Revisited par Tricky. Oui, on a le sentiment qu'il y a une volonté politique en haut, du côté du ministre, et puis quelque part au sein de la hiérarchie, il y a des choses qui bloquent, quoi. Et c'est particulièrement ce que vous avez étudié, David Ninota, dans votre livre « J'ai exécuté un chien de l'enfer », et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Le livre parle de beaucoup de choses, mais il me semble que le cœur du bouquin, c'est vraiment ce problème. D'où la référence à Kafka, hein. Vous le citez au début, on avait sûrement calomnié Joseph K, car sans avoir rien fait de mal, etc. Et vous dites que Kafka est la meilleure introduction possible à ce phénomène peu étudié qu'a été le meurtre de Samuel Paty, non pas le vivre ensemble, mais le mourir seul.
Exactement. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Béatrice. Je dirais que mon problème, lorsqu'on dit que le problème fondamental, c'est la laïcité est une bataille d'opinion, moi je crois que c'est d'abord et avant tout une bataille de description. On ne peut pas faire l'autocritique de l'administration si on ne décrit pas précisément, dans les détails, ce qu'est le non-soutien d'un professeur. Mon travail de romancier, c'est de partir du singulier. Et c'est de ne pas fuir dans les généralités de type qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut mieux défendre la laïcité. C'est de partir d'un cas concret et d'essayer de restituer cette logique de la façon la plus honnête possible en mettant tout à plat. Et donc j'ai voulu montrer comment fonctionne la bienveillance truquée d'une administration. Hein, et ça, on ne peut pas en parler de façon générale. Il faut vraiment prendre les personnages, voir comment les personnages s'imbriquent. Parfois, vous avez des collusions très étonnantes, vous avez des surprises, vous avez des vérités inconfortables. Et j'ai voulu me confronter à ces vérités inconfortables sans fuir dans l'émotionnel. C'est terrible, etc. Sans fuir non plus dans les platitudes de type « La République, c'est bien, il faut rendre hommage à Samuel Paty », ce qui nous apprend rien du tout et qui ne mange pas de pain. Et sans fuir non plus dans ce que j'appellerais les vérités générales du pédagogisme, c'est-à-dire « Parlons de la laïcité, parlons des grands débats, etc. » Non, je pense qu'il faut d'abord parler de comment ça s'est produit.
Alors, ce que vous racontez, c'est un point intéressant. Donc, on ne va pas refaire toute l'histoire.
Hein,
bien sûr. Ce point-là. Le piège initial, le 6 octobre 2020, une mère appelle la principale du collège, persuadée que les élèves de confession musulmane, je vous cite, ont fait l'objet d'un traitement raciste de la part de Samuel Paty. Il est sommé de s'excuser au plus vite. Il s'exécute de bon cœur. Et il est intéressant de constater que de telles excuses sont intervenues avant même que la rumeur n'ait eu le temps de révéler son inconsistance. Oui. Donc, Paty clarifie la situation par téléphone. Le parent d'élève semble avoir obtenu satisfaction. Ouais. C'est bien que pendant environ 24 heures, les choses rentrent dans l'ordre. En réalité, la bonne foi de la principale n'est pas en cause, mais en fait, Paty vient de tomber dans un piège. C'est ça que vous dites. Oui. On voit comment la présomption de culpabilité joue en défaveur du professeur, justement parce qu'il a appelé pour dissiper un malentendu.
Exactement. C'est ça, malentendu créé par une élève qui n'était pas dans la classe.
Oui, bien sûr.
C'est très important.
Donc la présomption de culpabilité, une fois posée, comme chez Kafka, il va suffire d'un rien pour qu'elle se réveille ensuite. Donc c'est le geste pour désamorcer le malentendu qui crée la présomption de culpabilité.
Ça crée et ça créera un deuxième piège. Comme vous dites, on ne va pas recréer tout le livre, on ne va pas retracer toute l'histoire. Mais ce qui me frappe, c'est que ça commence comme un roman de Paul Auster, au sens où vous avez un appel téléphonique. Et ce qui est très frappant, c'est que la principale, que je n'accuse pas, il ne s'agit pas d'accuser des personnes, mais c'est le fonctionnement qui m'intéresse. Dès le départ, c'est le professeur qui doit s'excuser d'un malentendu créé par une élève qui n'est pas dans la classe. C'est quand même, dès le départ, absurde. Et alors cette absurdité, dont Samuel Paty était extrêmement conscient d'ailleurs, va prendre du volume au fur et à mesure que l'administration s'occupera de son cas en quelque sorte. Hein, ouais. D'abord en l'accusant d'avoir mal maîtrisé
le petit détail qui va réenclencher la machine, ce que j'ignorais, alors que j'ai lu quand même beaucoup de choses dessus, c'est un appel anonyme apparemment qui menace à nouveau le collège de représailles avec une question. Qu'avez-vous donc contre les musulmans ?
Exactement.
Et c'est cette question anonyme après une dénonciation d'une élève qui n'était pas dans la classe, qui va provoquer la fameuse altercation entre les profs au sein du collège, où des emails vont être échangés, une prof va dire cette situation, sans qu'elle sache de quoi il s'agit, altère le lien de confiance que nous essayons de renforcer chaque jour avec les familles, et ça met en danger l'ensemble de la communauté du collège, elle écrit. En d'autres termes, Paty a donc mis tout le monde en danger.
Oui, c'est ça, on l'accuse de plus en plus, il devient le coupable idéal.
Hein, alors même qu'à l'époque, pratiquement rien ne s'est encore passé.
Non, mais il faut bien souligner le paradoxe qui consiste à dire que tous ceux qui interviennent et interprètent le cours de Samuel Paty étaient extérieurs à sa classe. Et que ceux qui étaient présents au cours du 5 et du 6 octobre ont témoigner tout à fait en faveur du caractère non discriminatoire de sa prévenance. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, vous voyez, c'est, par exemple, là j'ai envie de rebondir quand même sur quelque chose d'assez énorme qui vient de se produire hier, c'est-à-dire le commentaire d'Alexis Corbière sur ce qu'il fallait faire.
On va attendre autant de secondes.
Mais parce qu'on voit bien comment les gens ne posent jamais les questions qui se rapportent à la situation singulière de Samuel Paty. Hein? Moi, je ne peux pas faire de généralité. Je veux parler d'un cas particulier parce que je crois que c'est beaucoup plus dérangeant de répondre sur une situation singulière que de parler de façon générale. Oui, il faut mieux défendre la laïcité, etc. etc. Le non-soutien, effectivement, on le connaît, on le sait, on peut en faire des statistiques, mais c'est beaucoup plus important de le décrire précisément.
Yannis Roder, Béatrice Donabès, précisément sur cet enchaînement, ce truc kafkaïen qui fait que l'excuse crée la culpabilité alors qu'il ne sait
rien. En tout cas, sur le non-soutien, vous parliez tout à l'heure de l'évolution de l'école, du changement d'école depuis ces 40 dernières années, mais je crois que c'est directement en lien avec ça. Et je crois que la parole des parents est un poids énorme dans l'école aujourd'hui et notamment auprès des chefs d'établissement. Il y a une vraie présence des parents. Alors, on peut comprendre, elle peut s'expliquer. Elle n'est pas toujours malveillante. Elle s'explique par les angoisses face à l'avenir. Mais toujours est-il qu'il y a une forte présence des parents, qu'on peut aussi qualifier d'entrisme et une peur des chefs d'établissement face aux réactions des familles et qui s'inscrit. Alors évidemment, lorsqu'il s'agit de choses beaucoup plus graves comme ce qui s'est produit à Conflans-Sainte-Honorine, là il s'agissait d'une volonté politique et d'une idéologie qui était à l'œuvre, donc ça prend tout de suite une ampleur autre. Mais je pense que la situation dans laquelle se trouve l'école aujourd'hui ne fait que prêter le flanc à ce genre de situation.
Moi, je crois que l'assassinat de Samuel Paty a ouvert les portes de la compréhension de ce qui nous arrive, en fait. Je crois que personne, en réalité, ou presque, n'a pris au sérieux le journal de Daesh de décembre 2015, qui s'appelait Dar al-Islam, et qui disait l'école, c'est la cible.
Oui, oui. Comme en Algérie dans les années 90.
Exactement. Et quand on connaît justement, Marc Weitzman, ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, quand on s'intéresse à ces questions, on comprend que ce que dit Daesh en décembre 2015 est extrêmement sérieux. Mais qui l'a pris au sérieux en réalité? Il a fallu, j'ai l'impression en tout cas moi, qu'il a fallu attendre l'horrible assassinat de notre collègue pour prendre au sérieux ce que disaient les islamistes. Et d'autre part, si on parle de ces emails, etc., alors moi je n'ai pas encore eu le loisir de lire le livre de Monsieur Dinota. Je vais le lire avec grand intérêt. Mais je crois aussi qu'il y a une peur qui nous agite tous en permanence, une peur qui nous vient de cet antiracisme dévoyé, si vous voulez. On a l'impression que dès qu'on dit quelque chose, on risque d'être accusé de racisme et on se retrouve dans une position tellement inconfortable. On n'a pas envie de se retrouver dans ces positions-là. Donc on en a peur. Et je crois qu'il y a peut-être quelque chose de cela dans ce qui s'est passé.
Alors, le livre continue dans le récit de la mécanique kafkaïenne qui se situe au sein de l'école et au sein de l'enseignement après la succession de méprises et après les échanges de mails. Il y a donc le fameux référent laïcité qui va intervenir. Et là on est vraiment Kafka écrit. Vous citez Kafka. C'est la procédure qui se change peu à peu en verdict. Et c'est exactement ce qui se passe.
Exactement.
Et c'est vraiment intéressant à lire. Les extraits que vous donnez, le courriel à la principale d'établissement de la part du référent laïcité en vue de préparer la réunion du samedi 10 octobre 2020 écrit « L'exemple de notre collègue pourra être rapporté et étudié avec grand intérêt ». C'est vraiment une phrase qui sort de Kafka. C'est remarquable. Et dans le courriel du 9 octobre, il est le même référent laïcité écrit, il a froissé les élèves. Et ensuite, preuve du référent, l'erreur a été reconnue dès les premiers appels des parents, tant par la principale que par l'enseignant. Ouais, et là, c'est le piège qui se referme. Voilà, puisque Patty a appelé pour dissiper un malentendu, c'est donc qu'il est coupable.
Ouais, exactement.
Et ça, c'est le courriel du référent laïcité.
C'est ça.
C'est extraordinaire.
Et c'est extraordinaire, parce que le référent laïcité est en train de valider la notion d'offense, qui est évidemment une notion extrêmement critiquable, parce que si le cours doit s'aligner sur le sentiment religieux des élèves, il n'y a plus d'enseignement de la laïcité possible. On est vraiment dans une aberration pédagogique, mais cette aberration pédagogique, elle est porté par son référent, alors que Samuel Paty dit très clairement, et il est très important de le citer lui, la République ne reconnaît pas le blasphème.
Oui, et il dit dans sa déposition, je n'ai commis aucune infraction dans le cadre de mes fonctions.
Et quand il dit ça, il le dit à son administration, il ne le dit pas au commissaire.
Voilà, mais cette phrase passe à l'as, parce que d'un côté,
comme par hasard,
on a le référent laïcité, et puis de l'autre, on a Abdelhakim, c'est ce que vous disiez Béatrice et Yannis, à propos d'une idéologie, on a Abdelhakim c'est Sefrioui qui est devant l'école avec Brahim Chnaoui et autant pour moi qui parle de Srebrenica, qui parle des massacres des commis par contre les musulmans pendant la guerre des Balkans et qui dit ce que je vous dis c'est que nous sommes dans une ligne droite et si jamais on accepte ce que Samuel Paty est censé avoir fait, on arrivera à Srebrenica.
Disciple, c'est ça.
Et ensuite, quand il est enfin reçu par la principale après avoir fait le siège sans rendez-vous, il explique à la principale que si on avait été juif, on aurait pu entrer sans attendre.
Ouais. Vous voyez que les détails disent tout. Les situations sont infiniment plus intéressantes quand on les décrit de façon singulière que quand on fuis dans les généralités, mais juste pour rebondir sur le paradoxe dans lequel il a été pris, comment fonctionne la bienveillance truquée? Qu'est-ce qu'on a dit à Samuel Paty exactement? On lui a dit, vous avez offensé vos élèves, ce qui est faux, déjà c'est une thèse fausse, confirmée par les élèves présents, qui ont dit exactement le contraire, mais par contre, c'est la thèse de la menteuse qui n'était pas dans la classe. Donc le référent laïcité l'accuse d'une chose fausse. Et qu'est-ce qu'il fait exactement? Il lui dit, mais vous savez quoi? On pense que vous n'êtes pas vraiment un raciste et que vous avez fait preuve de mauvaise... votre intention n'est pas en cause. Donc on a fait de la psychologie. La psychologie, ça sert à toutes les sauces en politique. Donc on a fait de la psychologie pour confirmer une thèse fausse. Ben voilà comment ça fonctionne, la bienveillance truquée.
Vous, Béatrice et Yannis Roder, vous connaissiez le rapport du référent laïcité, vous connaissiez ces extraits?
Moi j'ai lu le rapport de l'inspection générale, quand il est sorti.
Mais ça, c'est des extraits des courriels, en fait.
Voilà, ce sont des extraits. Voilà.
Je connaissais les grandes lignes.
Mais pas les détails.
Non. Il faut le lire en détail, parce que vous avez des... Regardez, il y a un paradoxe extraordinaire dans ce rapport. Ce rapport dit cette phrase, alors je le cite un peu de mémoire, et pardon pour l'imprécision, mais il dit, nous avons posé toutes les questions, et toutes les réponses ont été apportées. Et puis quand on se déplace au 13 octobre, qui est le jour où Samuel Paty déclare, donc au commissariat puisqu'il est accusé de ce crime de pornographie, déclare « Je n'ai commis aucune infraction dans le cadre de mes fonctions », comme par hasard, ce procès-verbal n'apparaît pas dans le rapport. Donc on fait le tour de la question sans avoir la parole du professeur, c'est-à-dire du premier concerné. Voilà, moi si ça vous choque pas, moi personnellement c'est quelque chose que j'avais envie de relever. I know what I... And I know what I'm not, and he knows what I'm not. Do you know who you are? Will we know when to stop? Oh mondo,
sauvaging. O camino es solitario.
Et pour continuer, on va continuer sur cet enchaînement administrativo-labyrinthique dans lequel Samuel Paty s'est retrouvé pris et totalement isolé. Ça a continué après le meurtre. C'est-à-dire que le rapport qui sort finalement le 3 décembre, je crois bien, on trouve toujours des phrases du genre « Samuel Paty a du mal à percevoir qu'il a fait une erreur ouais. ». On est toujours chez Kafka,
ah hein, oui,
c'est fascinant. « Monsieur Paty a reconnu avoir fait une erreur ». On trouve toujours des phrases comme ça. Ça, c'est l'inspecteur qui donc écrit.
Aussi et, indirect, hein, vous remarquerez.
Voilà. Et les deux rapporteurs. Et alors, il y a des passages absolument fantastiques sur les félicitations auxquelles se livrent les rapporteurs pour le référent laïcité, mais aussi pour toutes les structures bureaucratiques de l'enseignement. Je cite un extrait hein, parce oui. que c'est quand même intéressant de
absolument.
Voir comment c'est écrit.
Absolument.
À l'échelon académique, la prise en compte de la situation est aussi marquée par l'attention et la réactivité. La DAASEN s'est emparée de l'affaire tout en informant la DAASEN qui a pris ses fonctions dans le département le 5 octobre et a constitué une sorte de cellule de suivi et d'intervention composée de lui-même, du directeur et de la chef de cabinet de la rectrice, du référent académique laïcité et de la conseillère sécurité de la rectrice, etc. etc. La mission a pu constater que c'est de bout en bout dans un véritable souci d'accompagnement que cette action a été conduite. Donc tout le monde se félicite
de
ce qui s'est passé deux mois après le meurtre.
C'est ça. Est-ce que je peux rebondir sur ce que vous dites?
Oui, je vous en prie.
Peut-être la formule la plus... qui serait comique si elle n'était pas tragique dans ses conséquences, c'est celle de la rectrice de l'Académie de Versailles, le 7 décembre 2020, qui dira « Je vous promets d'être chaque fois plus efficace ». Alors que, évidemment, Samuel Paty vient d'être décapité. Il faut quand même la sortir, cette formule, je pense.
Oui, non, c'est très, très étonnant. C'est très étonnant, ce jargon. Et tout est, comme vous le signalez d'ailleurs, tout est écrit au présent.
Le présent de l'administratif.
De l'administratif,
c'est ça.
Comme vous dites. C'est-à-dire que la synergie de tous les services permet l'accompagnement c'est de ça. L'enseignant en difficulté. C'est ce qui est écrit
oui.
Après le meurtre.
Voilà. On voit pas comment ça le permet.
C'est très étrange. Béatrice Benabès, Yannis Roder, vous êtes habituée à ce type de jargon dans vos contacts avec l'administration?
De grâce, soyez sincère.
Non.
Là, c'est quand même assez caricatural,
oui,
je dirais.
Oui.
Enfin, ça prend une proportion. Si elle n'était pas tragique, effectivement, comme vous disiez, David, c'est non. J'ose espérer que. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs. Je n'espère plus grand-chose de ce point de vue-là. Ce que j'espère, si, c'est que. Et j'en reviens justement à l'avenir, parce que c'est que je pense que la lâcheté. Et le n'explique pas tout de la part des enseignants et de la part. Je pense qu'il y a juste une parfaite méconnaissance de ce qu'est la liberté d'expression et le principe de laïcité. Je ne peux pas me l'expliquer autrement.
Oui, mais ce qui a tué Samuel Paty, ça n'est pas cette méconnaissance. Hein.
S'il y avait eu parfaite connaissance, il y aurait pu y avoir un plus grand soutien néanmoins.
Vous pourrez toujours bien former les professeurs s'ils sont l'objet d'un chantage islamiste. Les islamistes trouveront toujours la faille qui feront que ils feront une pression sur les enseignants.
Alors là, on se retrouve dans une...
Et c'est
question,
ça le point de départ.
C'est la bataille culturelle. Alors, c'est qu'il faut, il faut réenchanter la laïcité, il faut réenchanter, réarmer les enseignants, et il n'y a que comme
pas seulement. Je crois qu'il faut aussi, vraiment faire comprendre le danger que nous courons. Je crois qu'il faut être très clair sur cela. Alors, le passage à l'acte contre Samuel Paty nous l'a montré aujourd'hui, et il faut quand même espérer que aussi bien tous les enseignants que les corps intermédiaires et compris
et réellement compris ce à quoi nous pouvons nous exposer, à quoi nous sommes parfois, le danger auquel nous sommes exposés. Je crois qu'il y a aussi cette réalité-là. C'est-à-dire que on a tendance, nous, je crois, et les enseignants d'une manière générale, à ne pas prendre au sérieux les discours qui nous paraissent complètement dingues. Sauf que les gens qui les tiennent ne sont pas dingues.
Oui, mais c'est-à-dire vous savez, les discours dingues, c'est pas simplement ceux des islamistes. Je crois que le vrai tabou, bien sûr, hein, vous voyez bien à quoi
c'est
je veux faire allusion.
C'est pas seulement, mais c'est vrai qu'il est très difficile de faire la part de la peur et de la méconnaissance en fait. Le sondage IFOP Marianne sur les 18-30 ans qui vient de sortir là est très intéressant de ce point de vue. On a quand même 9% des sondés qui indiquent condamner l'auteur du meurtre mais partager certaines de ses motivations, 5% qu'ils ne condamnent pas et 9% qui indiquent que ça les laisse indifférents, c'est-à-dire un total de 23% de 18-30 ans. C'est quand même beaucoup. Plus d'un jeune sur cinq qui estime que Samuel Paty a eu tort de montrer les caricatures, que ça constituait une provocation. Opinion partagée majoritairement par les jeunes musulmans, à 56% quand même, à 18-30 ans, c'est énorme. Et mais c'est un conformisme qui dépasse quand même de très loin la seule question de l'islamisme. Et c'est là où le mélange de peur et de méconnaissance se font, puisque la loi de juillet 1880 sur la liberté de la presse n'est soutenue par les jeunes de 18 à 30 ans qu'à une faible majorité de 59% contre 41% qui sont opposés. C'est quand même là, on ne sait plus ce qui fait partie de la notion de respect se mêle à la peur et se mêle à la méconnaissance historique et le clientélisme évidemment n'arrange pas forcément les choses. Vous voyez qu'on écoute la fameuse déclaration d'Alexis Corbière qu'il a formulée en votre présence, Yanis Roder.
Oui, tout à fait.
C'était hier, c'est ça?
C'était vendredi.
Vendredi.
À mon époque, Charlie Hebdo était un journal qui était réservé, si je puis dire, aux adultes. Il y a des dessins aussi là-dedans qui ne sont pas faits pour des adolescents. Je veux dire, c'est pas pour autant que que j'empêche la critique des religions. Mais un outil pédagogique aussi doit être adapté à un enfant. Vous ne parlez pas de certaines choses à un enfant de 10 ans, comme à un collégien, comme un lycéen. Quand vous discutez de textes classiques, de littérature, que vous racontez des histoires d'amour entre Verlaine et Rimbaud, ça peut choquer des jeunes gens. Eh bien, le métier de l'enseignant n'est pas de choquer en permanence les élèves, mais de le faire progresser.
Voilà, donc là on a le numéro 2 de la France Insoumise qui se retrouve d'accord avec les catholiques du mariage pour tous. C'est
fascinant. Moi je suis ravi parce qu'il confirme absolument les analyses que je propose dans mon livre. Que disent les islamistes de Samuel Paty? Ils disent il a choqué les élèves. C'est faux, mais on peut s'attendre, enfin, c'est rien de surprenant que les islamistes disent quelque chose de faux. Que dit Corbière? Il a choqué les islamistes, et il a choqué ses élèves. Alors, c'est factuellement faux, mais ce qui est fascinant, c'est qu'il reprend exactement le même discours. Mmh. La vraie question, c'est pas comment doit-on former les professeurs pour qu'ils ne choquent pas. La vraie question, si on s'intéresse à Samuel Paty, c'est comment fait-on lorsque un acte de prévenance est transformé après coup par des islamistes en acte de discrimination islamophobe. Mmh. Vous voyez que c'est pas du tout la même question. Évidemment, avant l'art de poser de mauvaises questions et de persister dans les mauvaises questions, Gilles Deleuze appelait ça la bêtise. Mais là, je pense que on a passé le stade de la bêtise. On est dans la reprise crasse du discours qui a tué Samuel Paty.
Est-ce qu'on est dans la stratégie?
Bien sûr.
On est dans la stratégie, mais c'est une stratégie qui est intéressante de constater qu'elle contamine jusqu'au patrimoine littéraire français. Ça gagne. Yanis Roder, on va bientôt finir l'émission.
Ce qui est intéressant dans ce que dit Alexis Corbière, effectivement, j'étais assis à côté de lui, mais je n'ai pas eu loisir de pouvoir réagir à ce moment-là. Il dit on n'est pas là pour choquer. En fait, je pense qu'on n'est pas là pour provoquer. En revanche, on est là en faisant preuve de tact pédagogique. Enfin, on n'est pas là pour confirmer ce que croient ou pensent les élèves. Mmh. On est là pour justement les ouvrir au monde. Mmh. On est là pour les faire sortir des déterminismes qui sont les leurs. C'est tout le rôle de l'école.
Absolument.
Alors, si ça doit passer par le choc, malheureusement, parce que certains ne supportent pas que Verlaine embrasse Rimbaud, eh bien, je suis désolé, mais ça s'est passé comme ça, et ça existe. Et il faut s'ouvrir au monde et accepter l'école. Le temps de l'école, c'est aussi accepter le repli, un petit peu de faire un repli de soi-même, en quelque sorte, de manière à se mettre en position de recevoir les enseignements et tous les enseignements.
Béatrice Benabès, le mot de la fin.
Il faut avoir présent à l'esprit que l'école est un espace de neutralité dans lequel l'enfant, l'adolescent, arrive n'étant ni musulman, ni juif, ni athée, et ni chrétien. Il est élève et il est prêt à recevoir les savoirs de son professeur. Voilà. C'est un espace de neutralité, c'est un sanctuaire. Et l'autorité du professeur, la parole de l'autorité, du professeur, pardon, doit y faire autorité. Et ce genre de choses, il faut vraiment y travailler dard. Someone spoke, I listened. All of a sudden has less and less to say. Oh, how could this be? When all this time I've lived vicariously. Who's gonna save my soul?
Voilà, merci à tous les trois d'avoir été là. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Ludovic Auger et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Someone else's song was totally and completely dependent.